Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1 en ce vendredi 20 novembre. Merci de vous réveiller avec nous tout de suite. Un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est précisément 6h.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020.
Le gouvernement lance une alerte à la vigilance dans les EHPAD. Un établissement sur 5 est actuellement touché par le coronavirus. Désormais, les personnels se feront dépister une fois par semaine. Le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour en France, on le sait, mais quelle est la situation chez nos voisins? Nous serons en Espagne, où la Catalogne se prépare à lever quelques restrictions. Dans ce journal, le Black Friday en passe d'être reporté au 4 décembre, mais attention aux arnaques et aux fausses promotions de certains commerçants. Ne jetez surtout pas vos masques chirurgicaux à la poubelle jaune. Ces déchets toxiques perturbent le travail dans les centres de tri. Et puis le 119, le numéro pour l'enfance, croule sous les appels depuis le reconfinement. 25% de plus par rapport au printemps dernier.
Après le journal, mon invité inattendu est une actrice dont vous ne soupçonnez peut-être pas la passion pour le foot. Toute petite déjà, elle tapait la balle dans la cour de récré avec les garçons. Elle nous raconte à 6h15. Aujourd'hui, le foot féminin prend enfin la lumière. Ce soir, les filles du PSG et de l'OL ont rendez-vous pour la première fois au Parc des Princes. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète. Bon réveil, bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout se joue maintenant pour que la deuxième vague ne ressemble pas à la première dans les EHPAD. Ça, ce sont les mots de la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon hier soir lors du point hebdomadaire dédié à l'épidémie de coronavirus. Lors de la première vague, la moitié des établissements avaient été touchés. Aujourd'hui, 1600 EHPAD sont concernés, soit 1 sur 5. Mais la situation reste fragile.
Oui, en Isère, par exemple, en un peu plus d'un mois, 24 résidents sont morts du Covid, soit un tiers des pensionnaires. Pas question de supprimer les visites pour l'instant, mais le gouvernement souhaite renforcer le protocole sanitaire dans les EHPAD. Victor Delande.
Oui, les personnels des EHPAD seront désormais testés toutes les semaines. Le gouvernement a d'ailleurs commandé 1 600 000 tests antigéniques pour approvisionner les établissements. Les proches, eux, devront remplir un questionnaire avant de rendre visite à un résident. Ils seront invités à faire un test PCR 72 heures avant leur venue ou un test antigénique dans la journée. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une simple recommandation. Autant de nouvelles mesures indispensables pour maintenir les visites, comme l'explique la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches. C'est un choix que nous tiendrons même si nous mesurons à quel point l'équilibre entre protection et lien social est délicat à assurer au quotidien sur le terrain.
Et pour soulager les personnels dans les EHPAD, épuisés par cette crise sanitaire, le gouvernement a demandé à Pôle emploi de lancer une grande campagne de recrutement. Une autre piste sur la table serait de proposer aux jeunes en service civique de s'engager dans ces établissements dans les prochaines semaines.
Pour l'heure, la baisse du nombre de patients en réanimation se poursuit. Même chose pour les arrivées à l'hôpital. Pour autant, le confinement n'est pas terminé, a prévenu Olivier Véran hier soir, appelant à poursuivre nos efforts.
Alors, quelle est la situation chez nos voisins? Nous allons en Espagne ce matin. Là-bas, chaque région gère ses mesures de restriction face à l'épidémie. La Catalogne va commencer à assouplir les siennes.
Oui, les autorités ont présenté hier un plan de déconfinement qui prévoit une réouverture partielle des restaurants et des cinémas. L'étau va donc se desserrer très lentement. Henri de la Guérie.
En Catalogne, on ne veut surtout pas répéter les erreurs du printemps dernier avec un déconfinement trop rapide. Ce plan comprend 4 phases et s'étalera sur 2 mois. Lundi prochain, après plus de 5 semaines de fermeture, les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients jusqu'à 21h30. Mais les capacités seront réduites. Jérôme Misan est patron d'un bar à tapas.
C'est une fausse bonne nouvelle. Ce qu'ils nous proposent, c'est d'ouvrir 30% du restaurant, 30% de la terrasse. C'est pas viable, donc nous, on a décidé de ne pas ouvrir. Le problème, c'est qu'on n'a aucune aide. C'est difficile.
Les cinémas et les théâtres pourront ouvrir à 50% de leur capacité. Il faudra attendre le 21 décembre pour entrer ou sortir librement de Catalogne. Pour Noël, les réunions passeront de 6 à 10 personnes, mais le couvre-feu entre 22h et 6h du matin sera maintenu jusqu'en janvier. Il ne faut pas se précipiter, répète le président catalan Pere Aragonès.
En aucun cas, nous ne permettons la reprise de la vie sociale. Il ne s'agit que d'assouplissement. Même si la tendance est positive, la situation reste grave. Nous devons tout faire pour éviter une troisième vague cet hiver avant l'arrivée du vaccin.
Cette prudence catalane tranche avec la situation de Madrid. Dans la capitale espagnole, tout est ouvert, il n'y a pas de restrictions de mobilité et pourtant, l'épidémie recule plus vite sans que personne ne parvienne réellement à l'expliquer. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Voilà pour cette stratégie, hein, pas à pas étalée sur 2 mois dans la région de Barcelone. On s'y intéresse ce matin sur Europe 1 parce qu'elle pourrait peut-être inspirer la France. On en reparlera tout à l'heure à 6h40 avec le représentant de la Catalogne à Paris, Daniel Camos, qui sera mon invité. Le Black Friday, à présent, il sera reporté au 4 décembre. Le PDG d'Amazon France a accepté de décaler la date. Une réunion a lieu à Bercy aujourd'hui pour définir un accord avec les différents acteurs concernés.
Et à l'approche de cette vaste opération promotionnelle, attention aux arnaques. L'UFC Que Choisir alerte sur des pratiques commerciales qu'elle juge trompeuses. 6 enseignes, dont Darty, la Fnac ou encore Cdiscount, sont mises en demeure par l'association de consommateurs qui demande à l'État d'encadrer leur campagne publicitaire. Alain Bazot, président du UFC Que Choisir.
Il se trouve que le Black Friday, c'est une opération d'illusionnisme à grande échelle. Ce sont des fausses promotions parce qu'il n'y a strictement aucun encadrement. Autrement dit, un professionnel sur une plateforme peut très bien artificiellement pendant quelques minutes augmenter le prix d'un frigo, le faire passer de 500 à 1000 et après au moment du Black Friday dire c'est pas 1000 mais c'est 500, 50% de réduction. Donc des réductions qui sont complètement bidons, et ça c'est possible parce que la législation le permet. Il y a une situation économique très difficile, et donc la recherche de la bonne affaire, c'est vraiment dans la tête de tout le monde. Et les consommateurs risquent de s'engouffrer dans de la consommation, de la surconsommation à outrance, sans réaliser de véritables affaires et en achetant peut-être des choses parfois un peu inutiles.
Alain Bazot du UFC Que Choisir avec Hélène Terzian.
Il est 6h07 sur Europe 1. Attention, un avertissement ce matin. Attention à ne pas jeter vos masques chirurgicaux dans le bac jaune du recyclage.
Le message est martelé depuis le début de la semaine par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Les masques sont des déchets potentiellement contaminés. Ils doivent absolument être jetés dans la poubelle normale pour ensuite être incinérés. Les masques jetés dans les poubelles jaunes perturbent fortement le tri des déchets, comme l'a constaté Virginie Salmen dans ce centre de région parisienne.
Sur le tapis roulant, au milieu des déchets papier et carton, j'ai compté un masque toutes les 20 secondes en moyenne.
Regardez, il y a un masque qui passe, elle est obligée de le retirer.
Ce sont des hommes et des femmes qui les retirent à la main pour ne pas qu'ils polluent la matière qui part au recyclage. Ils ne devraient pas avoir à prendre ce risque, regrette Monique Calassi, cadre chez Veolia.
Ce geste-là, il est très compliqué à demander à nos trieurs. Parce que qui dit masque, c'est une contamination potentielle. On a fait une analyse de risque, on a mis en place plein de gestes barrières pour qu'ils puissent être protégés. Mais le geste reste assez difficile à faire parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont des familles, des enfants, qui ont peur comme tout le monde.
Ils sont équipés de masques et de gants épais, mais Alphonsine, l'une des trieuses de la chaîne, n'est pas toujours rassurée.
J'ai 4 enfants, c'est pour ça aussi qu'on est un peu réticente. On a peur aussi de ramener la maladie aussi à la maison. Les gens qui jettent, qu'ils fassent attention, de penser aussi aux gens qui travaillent derrière pour les enlever.
Et s'il y a trop de masques qui arrivent d'un coup sur le tapis roulant, certains trieurs demandent carrément à arrêter la chaîne. C'est déjà arrivé dans ce centre de Vaulpény.
Reportage signé Virginie Salmen. Dernière ligne droite au procès de Jonathan Daval. Hier, l'accusé a reconnu pour la première fois avoir voulu tuer sa femme Alexia. Il sera interrogé une dernière fois aujourd'hui, mais le verdict ne sera pas connu avant ce week-end. Matignon promet un amendement pour faire évoluer le très critiqué article 24 de la proposition de loi Sécurité globale, garantissant ainsi que les dispositions envisagées ne feront nul obstacle à la liberté d'informer.
C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion de se pencher sur leur situation depuis le confinement.
Le bilan est difficile à établir, mais les actes de violence physique, sexuelle, psychologique sont nombreux le week-end, notamment lorsque les familles sont coincées chez elles. En tout cas, ce qu'on sait, Virginie Riva, c'est que les appels vers le 119, le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, eh bien ces appels ont augmenté de 25% depuis la fin du premier confinement.
Oui, avec 700 appels par jour pour signaler des négligences, des violences psychologiques ou physiques, les appels restent beaucoup plus nombreux durant ce deuxième confinement qu'à la même époque l'an dernier. Ça n'est pas forcément le signe qu'il y a plus de maltraitance durant ce mois de novembre, mais ce qui est sûr, c'est que depuis le premier confinement et l'explosion des cas de violences intrafamiliales, il y a plus de signalements, déjà de la part des victimes mineures elles-mêmes qui connaissent mieux le numéro d'appel, le 119, mais aussi des voisins qui osent davantage prendre leur téléphone pour alerter, une ressource précieuse pour Pascal Vigneron, directeur du 119.
Les voisins ont tendance à nous contacter, notamment parce qu'ils entendent des cris d'enfants ou des cris de parents. Mais souvent, on nous dit à quel moment on doit contacter les services du 119. Je dis toujours, dès lors que l'on se pose la question, c'est déjà qu'on a des éléments qui nous conduisent à faire penser qu'un enfant est potentiellement en danger.
À charge ensuite aux professionnels de l'enfance de qualifier la situation. Des voisins qui peuvent également remplir un formulaire en ligne sur le site s'ils ne souhaitent pas appeler directement. Le 119 ne les rappellera pas, mais transmet directement au département en charge de la protection de l'enfance en cas d'information préoccupante.
Aux États-Unis, Joe Biden dénonce l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump. Ce dernier refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu'il fait est tout simplement scandaleux, a déploré le président élu Joe Biden. Et puis vous l'aviez vu à l'écran dans Interstellar ou The Dallas Buyers Club, l'acteur américain Matthew McConaughey se tourne vers la politique et envisage de devenir gouverneur du Texas, son état d'origine. Il l'a annoncé cette nuit au cours d'une interview à la radio.
Mr. McConaughey,
allez-vous vous présenter pour être gouverneur du Texas? C'est une réponse simple que j'attends, oui ou bordel, oui.
Je ne fais pas de politique. La politique semble être un vieux truc. Elle ne semble plus vraiment trouver son but. Mais alors que j'avance dans la vie, est-ce que je m'imagine dans un rôle où j'aurai des responsabilités? Oui, j'adorerais.
Ouais, étonnant, hein. Matthew McConaughey, grand acteur qui s'engage comme ça en politique. On suivra ça dans les années qui viennent. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h12.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.